Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours une joie et un privilège que d'ouvrir la parole de Dieu pour se laisser enseigner par elle. Et je dis tout le temps que le privilège du prédicateur, c'est de le premier à découvrir les choses qu'il va vous dire et en être bénéficiaire. C'est aussi une joie de vous apporter les salutations de la rue Sonnera. Il y a des échanges de temps en temps et c'est toujours bien aussi de pouvoir entretenir des liens entre églises locales. Michel Rento rapporte dans un de ses ouvrages l'histoire d'un industriel qui voulait entreprendre un voyage à Tokyo et que son veilleur de nuit a supplié de ne pas prendre l'avion. Car dans un rêve, il avait vu la nuit passée cet avion s'abîmer en mer sans qu'il reste aucun survivant. Et le lendemain, la presse annonce effectivement cet accident d'avion. L'industriel fait venir son veilleur de nuit et lui remet un chèque de 100 000 francs, donc vous comprenez que l'histoire n'est pas récente, ça fait à peu près 15 000 euros. Donc lui remet un chèque de 100 000 francs pour le récompenser de lui avoir sauvé la vie. Mais en même temps, il lui signifie son licenciement. Parce qu'en tant que veilleur de nuit, il n'aurait pas dû dormir et rêver la nuit. Si je vous rapporte cette histoire, c'est parce qu'il y a certains parallèles avec une parabole que nous allons méditer ce matin. Une parabole qui nous rapporte un licenciement et dont la conclusion aussi est, à première lecture, très surprenante. Et je vous invite sans plus attendre à lire cette parabole qui se trouve au chapitre 16 de l'évangile de Luc. C'est ici qu'il faut viser. Voilà. C'est bon. Donc je vous fais la lecture dans la version Bible en français courant. Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant, et l'on vint lui rapporter que ce gérant gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ?» Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Mon maître va me retirer ma charge. Que faire ? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre et j'aurai honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire. Et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Alors il fit venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, voici ton compte, vite, assieds-toi et note 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu ? 100 sacs de blé, répond-il. Le gérant lui dit, voici ton compte, note 80. Eh bien, le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement. Et nous arrêterons là pour l'instant la lecture du texte. Le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement. Comment est-ce possible de louer quelqu'un qui dilapide vos biens et qui consent des ristournes énormes juste pour sauvegarder ses intérêts? D'ailleurs, le verset 8 dit bien, le versier qualifie bien le gérant de malhonnête. D'autres versions disent injuste ou infidèle. Jésus nous donnerait-il en exemple un filou prêt à agir malhonnêtement pour sauvegarder ses intérêts? Pourquoi cette parabole? Quand même de quoi s'interroger. J'ai trouvé dans un commentaire biblique cette définition d'une parabole. Une parabole, c'est une histoire terrestre avec une signification céleste. C'est un récit illustré, une histoire réaliste, destinée à enseigner une vérité spirituelle. On commencera donc par examiner en plus en détail l'histoire terrestre, et dans un deuxième temps, nous essaierons de comprendre quel enseignement spirituel Jésus a voulu dispenser à ses disciples. Le personnage principal de cette histoire, c'est le gérant. D'autres versions traduisent intendant ou économe. À l'époque de Jésus, confier la gestion de ses terres était monnaie courante chez les riches propriétaires qui vivaient principalement dans les villes. La responsabilité des terres agricoles était confiée donc à des gérants dont le rôle était de superviser les opérations et de récolter l'argent pour ensuite le transmettre aux propriétaires. C'est bien ça le but. On peut donc supposer que ce gérant est une personne qui a quand même une certaine éducation. Il doit savoir compter, par exemple, se lire des livres, etc. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde à l'époque. Il appartenait à une classe sociale plutôt favorisée, même s'il n'est pas aussi riche que son maître. Mais en tout cas, il était épargné par les travaux pénibles des paysans. Au verset 1, ce gérant nous est présenté comme incompétent ou malhonnête. Il est accusé de gaspiller, de dilapider les biens de son maître. Et quand son maître l'apprend, il décide de le renvoyer, de le licencier. Le texte ne nous dit pas si le gérant s'est défendu ou pas des malversations. En tout cas, on peut penser qu'il ne conteste pas. Il reconnaît tacitement les faits qui lui sont reprochés. Il se pose la question, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Travailler la terre, je m'en sens pas la force. Mendier, vous imaginez, quelqu'un qui avait quand même une position sociale enviable, aller dans les rues et mendier, quémander, quelle honte. Alors il met au point une stratégie. Il va convoquer un à un les débiteurs et leur consentir des remises. Alors, j'ai trouvé dans un commentaire que ça correspond à peu près à 1 an et demi, voire 2 ans de salaire pour un ouvrier agricole. Donc ce n'est pas un petit cadeau qu'il fait au débiteur. Est-ce qu'il agit malhonnêtement ? Je ne sais pas vous, mais la première fois, on se dit « bah oui, c'est clairement malhonnête ». Pourtant, les commentateurs ne sont pas unanimes sur cette question qui a suscité de très nombreux débats. Et je citerai deux fois, à deux reprises, Alfred Kuhn qui dit que c'est une des paraboles les plus discutées dans son interprétation. Certains pensent qu'en fait, il n'a fait que renoncer à ses commissions. Et que c'est pour ça que finalement, le maître peut louer son intendant en se disant « bon, finalement, il ne m'a rien pris et il a été malin, il a réussi à sortir de ce mauvais pas. » Pourtant, quand on y réfléchit, pour le premier débiteur, il avait doublé le prix. Des commissions où on double, c'est quand même, enfin je sais pas, en général on prend 10, 20, 30%, enfin je sais pas, j'ai jamais été dans les affaires moi, mais bon, doubler le prix, ça paraît quand même énorme. 50% aussi pour le deuxième, c'est énorme. Donc la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire qu'en fait il a consenti des ristournes avec l'argent de son maître, il a donné l'argent qui n'était pas à lui. Et donc ça, c'est bien malhonnête. D'autres versions remplacent malhonnête par injuste, infidèle, trompeur. Ces termes ne sont pas totalement équivalents, mais ils montrent quand même clairement que Jésus n'approuve pas le vol en lui-même. C'est quand même un des commandements, tu ne voleras pas. Jésus ne peut pas aller à l'encontre de cette parole. Donc dans la suite du message, je considérerais qu'il a volé son maître. Le second personnage, c'est le maître. On nous dit peu de choses à son sujet. Il est riche et il décide de licencier son gérant. Jusque-là, rien d'anormal. Je pense qu'on aurait fait comme lui, hein, si on avait été à sa place. Par contre, sa réaction devant l'arnaque, louer le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement, ça, c'est quand même plus surprenant. Parole vivante traduit le verset 8 ainsi, « Le maître admira l'habileté de ce filou de gérant, car le malin s'y était bien pris. » C'est pas tout le monde qui a la capacité de se dire, quand on est volé, la première chose, on pense à regarder à soi, quoi, en se disant, mais hé, tu vois ce que tu m'as pris là ? Il admire l'habileté du gérant. Donc, il a eu connaissance des manigances de son gérant, il n'est pas dupe, mais il semble s'en accommoder. Comprenons bien que le maître ne loue pas le fait de l'avoir volé, mais que c'est l'habileté, la prudence du gérant qu'il reconnaît, même si c'est à ses dépens que le gérant s'est montré habile. Le récit fait encore mention d'autres personnages, les débiteurs. On nous dit qu'il convoque tous les débiteurs, donc apparemment il y en a beaucoup, on nous parle de deux. Et je remarquerai que le gérant, oui, il est habile parce que ce n'est pas lui qui modifie lui-même les reconnaissances de dette. Il dit, tiens, barre et marque autant. Si jamais c'est perçu, c'est pas moi j'ai rien fait. Enfin, je lui fais un procès d'intention, mais bon, ça paraît possible. Et puis enfin, il y a l'auditoire, dont on nous dit qu'il est principalement composé de disciples, ça se voit au verset 1. Et même si on ne le lira pas, au verset 14, on nous parle de la réaction des pharisiens, donc il n'y a pas que des disciples qui sont présents. Et dans la suite du texte, nous verrons que Jésus distingue dans l'auditoire ceux qu'il appelle les enfants de ce siècle ou les enfants de ce monde, donc des incroyants, de ceux qu'il qualifie des enfants de lumière, les vrais croyants. Reprenons notre lecture. Et voyons l'enseignement que Jésus veut dispenser. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Monde 1, croyant 0, pour l'instant. Quand même une parole qui doit nous interpeller. Jésus ajouta, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses ? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Commençons par examiner le contexte de cette parabole. Elle s'inscrit dans une série de 5 paraboles qu'on trouve au chapitre 15 et 16. La parabole de la brebis perdue, qui se termine ainsi, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 gens de bien qui estiment n'avoir pas besoin de changer. La parabole de la pièce perdue, qui se termine à peu près de la même façon, il y aura de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. La parabole du fils prodigue, qui a dilapidé l'héritage de son père, qui se repent et qui demande à son père de l'employer comme un de ses ouvriers. Et le père s'écrie, « Pour moi, mon fils était mort, et voilà qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, et voici, je l'ai retrouvé. » Et il commence à se réjouir et à festoyer. Puis on trouve la parabole du gérant, que nous venons de lire, qui est suivie par la parabole de Lazare et de l'homme riche, où Jésus nous parle d'un homme riche qui a profité égoïstement de ses biens en étant indifférent aux souffrances du pauvre Lazare, qui pourtant il voyait, couché devant sa maison. Et une fois que les deux personnages sont morts, Dieu leur réserve un accueil très différent. Lazare est consolé de ses souffrances passées, alors que le riche souffre atrocement, et ce, pour l'éternité. Toutes ces paraboles ont des points communs. Elles nous parlent de la façon de gérer les biens dont nous disposons momentanément. Elles nous parlent de changer de vie et de préparer notre éternité. Les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Une fois que le gérant a pris conscience du caractère éphémère de sa situation présente, il a concentré toutes ses forces vives sur son avenir, sur ce qui adviendra après son licenciement, et il n'a plus alors qu'un seul but, bien vivre sur cette terre, s'assurer un revenu confortable de manière à ne pas avoir à travailler ni à mendier. Bref, il veut assurer son avenir. Et Jésus nous dit, les enfants de la terre sont cohérents. Ils consacrent toute leur énergie, toute leur force, toute leur ingéniosité pour atteindre leur but. Sommes-nous aussi préoccupés de notre situation dans l'éternité que le gérant le fut à propos de sa situation sur la terre, quand il a appris qu'il allait être licencié? Jésus semble dire qu'il aimerait voir la même habileté en faveur des choses spirituelles chez les croyants, et c'est ce qu'il enseigne dans les versets suivants où il applique le principe avec lequel l'économe a agi. Je suis en décalage, j'ai l'impression. Ah non, j'étais en avant, je croyais être en retard. Alors, excusez-moi, j'arrive pas à lire à l'écran, là c'est trop loin. Oui, c'est bon ça. Alors c'est bizarre, normalement, je devrais être au verset 9. Ok, ben c'est ça. Alors. Ça c'est 8. Alors normalement, c'est 9. Voilà, pardon, merci pour votre aide. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses, certaines versions disent aussi injustes, de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Ce qu'on peut se dire, c'est que nous sommes un peu comme le gérant, nous disposons des richesses de Dieu pour un temps limité, celui qui précède notre mort. Jésus nous invite à utiliser ces richesses que Dieu nous a confiées pour un temps, pour nous faire des amis. Ce qui signifie, si on reprend l'image utilisée dans la parabole, veiller sur notre avenir dans l'éternité cette fois. Tant que nous sommes encore en vie, Jésus nous demande d'utiliser les biens que Dieu nous a confiés en vue du ciel. Non pas pour nous y assurer une place, puisque Jésus nous a donné l'assurance que nous passerions l'éternité dans sa présence, mais afin de trouver là pour l'éternité les conséquences de l'usage que nous aurons fait des biens dont nous disposions. Ce sont là, en langage figuré, ces amis qu'il faut se faire dans les demeures éternelles. On pourrait aussi penser que les amis que nous recevrons dans les demeures éternelles sont des personnes pour lesquelles nous avons contribué à leur conversion, par exemple, ou que nous aurions aidé lors de notre passage sur terre. Je me suis aussi demandé pourquoi Jésus parle de richesses trompeuses. À la réflexion, je pense qu'on peut dire que ces richesses sont trompeuses en ce sens que nous croyons les posséder, alors qu'en fait, tout appartient à Dieu qui nous les confie. Comme le maître avait confié la gestion de ses biens à un gérant. Et si nous croyons les posséder, eh bien nous nous illusionnons nous-mêmes. Et nous sommes aussi tentés de croire que nos richesses sont acquises pour toujours. Souvenons-nous alors du riche insensé qui se demande comment il va stocker ses abondantes récoltes et à qui Dieu dit « Mais insensé, ta vie va être reprise cette nuit ». Nous ne sommes que des gérants, que des dépositaires, et nous ne connaissons pas la durée du mandat de gestion. Les richesses peuvent nous tromper en nous faisant oublier notre fragilité, notre vulnérabilité, et nous donner de fausses assurances. D'autres versions traduisent aussi par des richesses injustes. pourquoi qualifier ces richesses d'injustes? Peut-être parce que les richesses de ce monde sont souvent obtenues de manière injuste ou immorale. Alfred Kuhn a écrit « Les richesses dont nous disposons sont toujours plus ou moins entachées d'injustice. » Pourquoi avons-nous la santé et l'intelligence nécessaires pour les gagner, alors que tel autre n'a ni l'un ni l'autre? Est-ce juste? Si je gagne plus que mon voisin, qui trime peut-être plus d'heures que moi et dépense plus de force, est-ce juste? Sans parler des biens que j'ai peut-être hérités ou reçus. Fin de la citation. Je n'entrerai pas dans cette question, mais effectivement, pourquoi Dieu a créé les choses ainsi? Pourquoi on est, j'allais dire, différent dans des contextes différents? Vaste question. Nous pouvons néanmoins en tirer un premier enseignement. C'est que nous sommes appelés à utiliser nos ressources, non pas pour nous-mêmes, mais pour l'avancée du royaume de Dieu, et bien souvent ça passe pour les autres. Nous sommes appelés à employer nos biens pour Dieu, pour son service, à les mettre à disposition de l'amour pour le bien d'autrui et pas exclusivement pour nous-mêmes, et nous en trouverons les résultats dans l'éternité. De cette manière, l'argent, comme les biens quelconques, ont une valeur immense, dès qu'on peut les transformer en bénédiction éternelle, alors que les euros que vous avez dans votre portefeuille, une fois que vous serez là-haut, ne serviront plus à grand-chose. Nous affirmons souvent vouloir mettre Dieu à la première place. Ça me fait penser quelquefois aux bonnes résolutions qu'on prend le 1er janvier. Tous les dimanches au culte, on est tenté de dire « Oui Seigneur, cette semaine je vais te mettre à la première place. » Mais un auteur chrétien a un jour déclaré « De nos jours, les chrétiens ne sont-ils pas plus ambitieux quand il s'agit de leurs propres affaires que de celles du Seigneur ?» Je dois reconnaître que quand j'ai lu cette question, elle m'a fait mal, parce qu'elle touche en plein cœur. Et elle m'oblige à reconnaître que bien souvent, je suis plus préoccupé de mon présent que de mon éternité. Le gérant infidèle, lui, s'est montré très déterminé à préparer son avenir. Jésus aimerait que nous soyons aussi déterminés que ce gérant dans notre service pour Dieu. Et c'est en cela que le gérant peut être un modèle inspirant, non pas dans sa malhonnêteté, mais dans sa détermination à atteindre son but. À propos de l'usage de nos richesses, Paul écrit à Timothée « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » C'est quand même important aussi de le dire. Dieu nous a confié des choses aussi pour que nous en jouissions, mais pas seulement pour nous. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Non ? Si, c'est ça, pardon, je cafouille un peu. Reprenons notre lecture au verset 10. « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. » Quelles sont ces petites choses dont nous parle Jésus? Mais revenu en texte, en tête, pardon, Matthieu 25, on nous parle du jugement des nations, où il nous est dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Je n'ai pas voulu aller plus loin dans la citation pour ne pas allonger, mais vous savez que les disciples, mais quand donc avons-nous fait ça ? Des petits gestes de la vie courante peuvent être ces petites choses qui nous permettent d'acquérir des trésors dans le ciel. Ces exemples donnés par Jésus ont trait à la gestion de nos biens, mais aussi à notre attitude envers les autres. La vie quotidienne nous donne plein d'occasions de faire le bien et de pratiquer l'amour, et ce faisant, nous nous amassons de vraies richesses dans le ciel. Ces richesses sont vraies en ce qu'elles ne nous seront jamais reprises, elles nous sont acquises pour toujours. Matthieu 6 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Une chose qui est claire, je pense, quand on médite cette parabole, c'est qu'il y a bien deux domaines dont nous parle Jésus, ce qui est terrestre et ce qui est éternel. Et il y a bien, s'il y a des parallèles qui sont faits, il y a aussi des différences énormes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, donc ce dont nous disposons aujourd'hui, qui pourrait vous confier les vraies richesses ? Donc là, on nous parle des richesses que nous aurions plus tard. Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne les biens des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné ? Ça aussi, quand on y réfléchit, c'est quand même assez surprenant. Enfin, moi, ça m'étonne. Les biens dont je jouis aujourd'hui, ce sont ceux des autres, notamment ceux de Dieu. Mais dans l'éternité, ce seront les miens. Deuxième application, la gestion de nos biens matériels, c'est quelque chose d'important, c'est à ne pas négliger. Souvenons-nous de la parabole des talents ou de la parabole des mines. Je cite une nouvelle fois Alfred Kuhn. La gérance des biens de ce monde est pour Dieu un test de nos capacités à gérer les biens du monde à venir. Voilà qui donne à notre vie et à tout ce que nous y faisons une importance finale considérable. Fin de la citation. Notre vie sur Terre serait une espèce d'entraînement, de préparation à la vie éternelle. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Là encore, sans développer, vous savez que nous avons auprès du Père un avocat qui, lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal, dira « J'ai payé le prix de leur faute. » Et donc nous avons cette assurance que nous sommes pardonnés. Mais nous passerons quand même devant le tribunal et chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Donc, il y a bien des enjeux encore, même une fois que le salut est acquis. Ce que nous faisons de notre vivant aura des conséquences éternelles. Poursuivons au verset 13. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Beaucoup de versions traduisent Dieu et Mammon, ce qui fait qu'on peut quelquefois croire que Mammon était une divinité, hein, alors que le sens primitif du mot Mammon, c'est possession ou richesse. Et Paul met encore Timothée en garde, c'est dans 1 Timothée 6, verset 10, « car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans la Bible, l'amour de l'argent est considéré comme une forme d'idolâtrie, car il peut amener les gens à placer leur confiance et leur loyauté plutôt dans la richesse qu'à Dieu. Aimer l'argent, c'est espérer qu'il pourra combler nos besoins, nous apporter sécurité et bonheur, au lieu de faire confiance à Dieu. Alors pour être équilibré, il faut rappeler que l'argent en lui-même n'est pas mauvais. On a des exemples de personnes riches dans la Bible et qui sont approuvées de Dieu. Je ne sais pas à qui vous pensez, mais Abraham et Job, par exemple, étaient des hommes qui étaient à la tête de biens considérables. Mais ils ne se sont pas confiés dans leur richesse, ils se sont confiés en Dieu. Et vous savez à quel point ils ont toujours été gardés. Malheureusement, on a aussi beaucoup d'exemples dans les Écritures de gens qui se sont confiés dans les biens matériels et que ça a amené à leur perte. Plutôt que de rechercher des richesses trompeuses, Paul indique à Timothée des exemples de vraies richesses. Celles qui produiront des fruits éternels. Il dit au verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, donc les richesses terrestres, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Je ne sais pas vous, mais moi, je n'aurais pas qualifié ces choses de bien ou de richesse. La douceur, la patience, l'amour, ce sont des richesses. On n'a pas tendance à les envisager comme ça, mais ce sont des richesses. La troisième application, c'est attention à l'amour de l'argent. On peut quelquefois être plus attaché qu'on ne le croit à des biens matériels. Vous connaissez ce verset, Luc 12, 34. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. J'en arrive à la conclusion. La parabole de l'économe infidèle invite le chrétien à réfléchir à la manière dont il gère les richesses temporelles qui lui ont été confiées. En dépeignant l'attitude de l'économe comme sage et avisé, Jésus montre que le peuple de Dieu doit être astucieux et prévoyant aussi dans sa gestion de l'argent, mais plus généralement de ses biens. La santé, les dons que vous avez, qui ne sont pas tous les mêmes, et ce sont des richesses aussi. On dit quelquefois d'un bon artisan qu'il a de l'or dans les mains. Eh bien, c'est une richesse. Il y a plein d'autres exemples comme ça qu'on peut voir. Bien entendu, contrairement à ce qu'on pourrait croire à la première lecture, l'histoire n'encourage nullement le croyant à être malhonnête. Mais elle rappelle que la richesse est un don de Dieu qui peut nous être retiré à n'importe quel moment et qui doit être utilisé pour les autres et pour acquérir des richesses éternelles. Amen.
Merci Philippe.